retrouve les informations avec vous, Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Aux États-Unis, l'État islamique revendique l'attaque à l'arme blanche d'hier dans l'État du Minnesota, tandis qu'à New York, la piste criminelle semble être privilégiée après l'explosion de la nuit dernière. Nous serons en direct avec notre correspondante Charlotte Alix au début de ce journal. Traditionnellement marqué par de nombreuses fraudes, le scrutin législatif de ce dimanche en Russie est surveillé de près par les autorités. Marc Crépin va nous expliquer ce qui a changé par rapport au dernier scrutin. Nous tenterons aussi de comprendre pourquoi la Centrafrique connaît un regain de violence depuis vendredi. Enfin, nous rejoindrons Christine Moncla à Fréjus. Marine Le Pen a clôturé ses estivales cet après-midi. Discours tranchant avec l'image d'apaisement prônée ces derniers mois. Au sommaire de dimanche et après, Raphaël Bourgois.
Eh bien, il sera question de la gauche qui continue de se fracturer. On attend entre autres un discours d'Arnaud Montebourg demain et le diagnostic d'Emmanuel Macron sur la France mardi. On parlera aussi en fin d'émission de la trêve en Syrie qui est déjà compromise et qui devrait occuper les diplomates réunis à New York encore quelques jours pour l'Assemblée Générale de l'ONU à 18h14, donc Anne Fauquemberg.
Merci Raphaël et à tout à l'heure. En Syrie, la trêve entamée il y a plus d'une semaine ne tient plus qu'à un fil. 4 raids aériens ont visé les quartiers rebelles de la ville d'Alep cet après-midi. C'est la première fois depuis l'entrée en vigueur lundi d'un cessez-le-feu, lundi dernier. Par ailleurs, la bavure de la coalition internationale contre le régime la nuit dernière à Deir ez-Zor, bavure qui a fait 90 morts du côté du régime, n'a fait que renforcer les tensions entre Moscou et Washington. La journée d'hier aux États-Unis a été marquée par la peur et l'inquiétude. Il y a eu cette explosion la nuit dernière qui a fait 29 blessés à Manhattan. Nous allons y revenir. Et un peu avant, une attaque au couteau qui a fait 8 blessés dans un centre commercial du Minnesota. L'État islamique a revendiqué cette attaque cet après-midi. Bonsoir Charlotte Alix.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de New York. Les témoignages recueillis après l'attaque du Minnesota accréditent cette thèse de l'État islamique.
Il faut rester prudent à ce stade, mais effectivement plusieurs éléments vont dans le sens d'une attaque perpétrée par un homme inspiré de l'idéologie djihadiste, ou du moins de ses méthodes. D'après des témoins, à au moins une des 8 personnes agressées, l'assaillant aurait demandé si elle était musulmane. Il aurait également évoqué Allah avant de passer à l'acte. Une attaque qui s'est produite donc hier soir vers 20h15, heure locale, à Saint-Cloud, une ville de 65 000 habitants, à une centaine de kilomètres de Minneapolis. On ne connaît pas encore l'identité du suspect qui a été tué par un policier qui se trouvait dans le centre commercial, mais c'était un habitant de la ville, connu des services de police pour des infractions mineures. Si le lien avec l'organisation État islamique se confirme, il s'agirait d'une nouvelle attaque menée de l'intérieur, à l'image de celle d'Orlando ou de San Bernardino. Ce genre d'attaque que les autorités redoutent tant elles sont difficiles à prévoir.
À New York, en revanche, c'est toujours le flou autour de l'explosion qui a fait 29 blessés, dont un grave la nuit dernière dans le quartier de Chelsea à Manhattan. Mais la piste du terrorisme international ne semble pas être privilégiée.
Oui, effectivement, c'est du moins ce que dit le gouverneur de l'État de New York. Aucune preuve d'une connexion avec le terrorisme international pour l'instant, mais il se veut prudent. Il rappelle que l'enquête ne fait que commencer. En tout cas, l'explosion n'a pas été revendiquée. Elle n'a fait que des blessés, la plupart légers. Mais dans cette ville, encore marquée par les attentats du 11 septembre il y a 15 ans, l'incident n'est pas anodin, d'autant qu'il survient alors que quelques 135 chefs d'État et de gouvernement convergent en ce moment vers New York pour l'ouverture demain de l'Assemblée générale de l'ONU. Pour l'heure, le maire de la ville se veut rassurant. Il affirme qu'aucune menace crédible ne pèse sur la ville, mais la police est à pied d'œuvre après la découverte, 2 heures après l'explosion, d'un deuxième engin explosif, une cocotte minute trafiquée à quelques rues plus au nord.
Merci Charlotte Alix, vous étiez en direct de New York. L'élection d'un nouveau Parlement en Russie se poursuit ce soir, élection qui prend un peu de temps. Les électeurs sont répartis sur 10 fuseaux horaires de Vladivostok à Saint-Pétersbourg. Fort d'une popularité record après le rattachement de la Crimée à la Russie, Vladimir Poutine peut être serein. Son parti, Russie Unie, est assuré de la victoire. Néanmoins, chaque élection est l'occasion de fraude. Bonsoir Marc Crépin.
Bonsoir Anne.
Vous êtes en direct de Moscou. Les autorités veulent s'assurer plus de transparence dans le processus électoral, ce qui a manqué lors des dernières élections en 2011.
Effectivement, les législatives de décembre 2011 avaient entraîné des mouvements de contestation comme la Russie en avait rarement vu. Souvenez-vous des centaines de milliers de manifestants dans la rue pendant tout l'hiver. La fraude avait été massive. Le parti présidentiel avait obtenu la majorité absolue. Aujourd'hui, la responsable de la commission électorale, Ella Panfilova, a promis à tout le monde que cette fois, le scrutin se déroulerait honnêtement. Dans tous les bureaux, on a donc installé des observateurs et des policiers, et même parfois des urnes électroniques. Malgré cela, de nombreux cas de fraude ont été signalés en Sibérie, dans plusieurs villes du Daghestan, dans l'Altaï, et aussi dans les grandes villes. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. D'abord, la technique du carrousel. 40 ou 50 personnes sont emmenées en bus pour voter dans plusieurs bureaux, les uns après les autres. Dans d'autres endroits, on a aussi fait voter les morts. Il y a aussi des assesseurs malveillants qui griffonnent sur les bulletins, ce qui entraîne leur annulation. Il y a encore le bourrage des urnes. Mais le plus difficile pour le moment reste de savoir quel sera l'impact de ces fraudes sur le résultat final.
Les explications de Marc Crépin en direct de Moscou. En Centrafrique, la mission de l'ONU, la MINUSCA, renforce son dispositif militaire dans le centre du pays. Au moins 20 civils ont été tués et plusieurs blessés dans des attaques qui ont commencé vendredi par l'incursion de plusieurs hommes armés dans la région de Kanga-Bandoro. Ces hommes sont apparemment issus de l'ex-coalition rebelle Seleka. Dans la perspective de la table ronde des donateurs prévue à Bruxelles le 17 novembre prochain, il reste peu d'espoir de voir la situation se détendre. Roland Marchal est africaniste, chercheur au CNRS et à Sciences Po.
Ce qu'on voit pour l'instant, et il y a encore quelques semaines pour agir de façon décisive, c'est que le dialogue avec les plus importants groupes de l'ancienne Seleka et des anti-Balaka, parce qu'on n'en parle pas, mais ils sont quand même toujours là, n'avance pas. Et sans doute le gouvernement ferait bien de se questionner sur ces hypothèses de base. Et puis d'un autre côté, peut-être plus sérieusement pour moi, la politique de réconciliation, c'est-à-dire parler des grands problèmes qui ont motivé à certains moments le soulèvement d'ailleurs des deux côtés, c'est-à-dire du côté musulman, mais aussi du côté chrétien, c'est-à-dire la critique de l'État, cette centralisation excessive à Bangui, le fait que finalement les gens doutent de leur citoyenneté. Bon, ce débat-là n'a pas lieu et on sent peu d'appétence dans les cercles gouvernementaux à le mener aujourd'hui. Or, il est essentiel pour cette réconciliation, bien plus essentiel que la Cour pénale internationale qui va sans doute être installée dans les prochains jours. Mais que peut faire une Cour, un tribunal spécial, si le climat social n'est pas du tout apaisé? Tout ce que ce tribunal fera sera perçu comme une vengeance par un camp ou par l'autre.
Des propos recueillis par Benoît Bouscarel. À 7 mois de la présidentielle, Marine Le Pen a conclu cet après-midi le lancement de sa pré-campagne à Fréjus à l'occasion de ses estivales. Bonsoir Christine Moncla.
Bonsoir Anne.
Vous êtes en direct à Fréjus. La présidente du Front National a été beaucoup plus offensive qu'à Braché au début du mois et elle a terminé son discours par un appel au nom du peuple.
Oui, le nom avait déjà été déposé par une société liée au Front National et Marine Le Pen elle-même vient de le confirmer au micro de France Culture. Écoutez.
Et au nom du peuple sera le slogan de la présidentielle. Oui, c'est officiel.
Voilà, au nom du peuple, nouveau slogan de campagne de Marine Le Pen. Et en empruntant cette adresse au peuple, Marine Le Pen est moins tenue à l'apaisement affiché ces derniers mois. Formule choc, ton mordant. Son discours d'1 heure démarre directement sur les fondamentaux frontistes, la dénaturation du pays.
Personne ne doit ignorer que cette élection présidentielle, cette élection de 2017, met en jeu une alternative implacable. Soit la France, sa souveraineté, son identité, ses valeurs, sa prospérité, soit un pays que nous ne reconnaîtrons plus, qui nous sera devenu étranger. Je vous le dis, il n'y aura plus de France sans identité.
La France soumise, vendue, dépossédée, égrène encore Marine Le Pen, par la faute d'un principal ennemi à ses yeux, le multiculturalisme.
Il est devenu une religion, enseignée dans les écoles, diffusée par tous les médias, imposée dans les esprits, et ceux qui ne font pas profession de foi se voient bannis, exclus, condamnés, sans être entendus. Oui, au multiculturalisme au niveau de la planète! Non au multiculturalisme dans un seul pays.
La salle adore qui entonnera plusieurs fois le slogan « On est chez nous ».
Merci Christine Monclaille. On vous retrouve demain à 7h35 pour le choix de la rédaction. Jacques Chirac est hospitalisé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Âgé de 83 ans, il est atteint d'une infection pulmonaire. L'ancien chef de l'État a connu plusieurs soucis de santé depuis 2005. Il avait cette année-là été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'avait durablement affaibli. L'ancien président de la République restera hospitalisé plusieurs jours et les principaux ténors de la droite, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, et François Fillon lui ont adressé des pensées de soutien sur le réseau social Twitter. C'est le cas aussi pour Bruno Le Maire qui a travaillé auprès de Jacques Chirac pendant son deuxième mandat présidentiel et qui était en meeting cet après-midi.
Dans mon parcours politique, où j'ai été fier, un moment où j'ai tremblé de fierté d'être français, c'est en février 2003, au Conseil de sécurité des Nations Unies, quand j'écoutais Dominique de Villepin prononcer son discours et que j'ai vu le monde entier se lever pour applaudir la France, la défense du droit, le respect des règles internationales. Et je veux rendre ici un hommage appuyé au président de la République, Jacques Chirac, parce que lui avait compris, Jacques Chirac, lui avait compris qu'on ne règle rien uniquement par la force, et que la force sans le droit provoque toujours des malheurs. Lui avait compris que la France est forte quand elle garde son indépendance, et que si par moment il faut s'éloigner de notre allié américain parce que nous ne partageons pas ses analyses, il faut avoir le courage de le faire, et que l'accord que nous avions conclu avec Berlin et avec Moscou en 2003 nous a permis de sauver l'honneur de la France, l'honneur de l'Europe et l'honneur des Nations Unies.
Bruno Le Maire avec Stéphane Robert, le député de l'Eure, candidat à la primaire de la droite, était à 7 dans l'Hérault. Il y a présenté son contrat présidentiel, un programme de plus de 1000 pages pour relancer sa campagne. La gauche aussi s'est fait entendre ce week-end, c'était hier à l'Homme dans le Nord, à l'occasion des universités de l'engagement du Parti Socialiste. Martine Aubry a fait sa rentrée politique en se rangeant timidement derrière François Hollande. Bonsoir Frédéric Savicky.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1. Martine Aubry a bien pris soin de dire qu'il n'y avait pas deux, mais une seule gauche hier, quitte à égratigner le Premier ministre Manuel Valls. A-t-elle les moyens de recoller les morceaux à gauche, d'être une force d'entraînement autour du chef de l'État ?
C'est difficile à dire. Oui, en partie, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de députés, de dirigeants du Parti Socialiste qui se reconnaissent encore en elle, et qu'elle a toujours une image, effectivement, de quelqu'un qui a à la fois respecté, en quelque sorte, le chef de l'État. Quand elle a attaqué, elle a plutôt attaqué le Premier ministre, Manuel Valls, ou Emmanuel Macron. Et donc, elle représente encore quelque chose aussi aux yeux, sans doute, des Français. En même temps, je suis pas sûr, évidemment, que cela suffise, évidemment, à redorer le blason du chef de l'État. Je crois que Martine Aubry, elle est un petit peu en train aussi de négocier la suite de sa carrière politique à Lille, et je pense qu'elle a besoin aussi d'un certain nombre d'assurances de ce côté-là. Donc voilà, je suis pas sûr qu'elle joue un rôle déterminant, très actif dans la campagne présidentielle qui s'annonce.
Merci Frédéric Savicky, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1. On vous retrouve juste après la météo. La météo de votre lundi sera marquée donc par un temps nuageux, parfois pluvieux sur la quasi-totalité du pays. Température au lever du jour, 12 à Strasbourg, 13 à Lille, 14 à Ajaccio, 16 à Marseille.